Bonjour Michaela.
Bonjour Claude.
Comment vas-tu?
Ça peut aller.
Ça peut aller. Bien, alors aujourd'hui, on est le 21 février 2021.
C'est un bon chiffre. Ça fait 21-02-21.
Ouais, voilà, plein de 2 et de 1. Donc, nous allons aujourd'hui prendre la suite de notre dernier podcast qu'on avait enregistré ensemble le 6 janvier 2021. Et là, nous allons reprendre ça aux alentours des années 1980, date à laquelle tu m'as dit que tu avais acheté avec Jean Daniel ta maison de Galician.
Ouais.
Alors, qu'est-ce que c'était Galician?
Alors Galician, c'est un petit hameau. Il y avait la première cave coopérative du Gard à Galician. Et puis on a acheté un petit terrain de 1 hectare quand même. Et dessus, il y avait une grange. Alors une grange dont une partie avait déjà été construite parce qu'il y avait quelqu'un qui y habitait. Donc il y avait un rez-de-chaussée avec une pièce, une cheminée par terre et un potager. Et au-dessus...
Un potager à l'intérieur de la maison?
Ah oui.
Il y avait un potager à l'intérieur de la maison.
Mais tu ne sais pas ce que c'est un potager?
Non.
À l'intérieur de la maison.
Ah, pour faire un potage.
Voilà, tout à fait. La cheminée, il y avait un potager.
Ah, d'accord, voilà.
Et puis, à côté, il y avait un évier fait en béton pour l'eau.
D'accord.
D'accord.
C'était une pierre à évier, quoi, mais en béton.
En béton, ouais. Et puis, au-dessus, il y avait 2 petites chambres.
À l'étage.
À l'étage. Et puis, je ne sais plus s'il y avait vraiment une salle de bain ou juste des WC quelque part. C'était très sommaire. Mais bon, ça nous a bien plu. Et puis, on était allé regarder ce qu'il y avait à vendre. Parce que depuis que je connaissais Jean-Daniel, il m'a toujours dit qu'un jour, il voulait aller en Camargue et vivre là-bas. Parce que lorsqu'il était ado, en 43, 44, 45, ils avaient fui Strasbourg parce que les Allemands arrivaient et ils ont atterri à Nîmes. Donc il avait été à l'école à Nîmes pendant quelques années et il avait gardé un très bon souvenir de cette période. Donc un jour, je lui avais dit, maintenant arrête de en parler, maintenant on y va. Donc on a commencé à regarder d'abord aux Saintes, où en fait on a vu que des horreurs, et puis à côté, et puis un jour on s'est arrêté à Vauvert, et je lui ai dit, écoute, on va voir le notaire. Et puis coup de bol, le notaire était là, et puis il nous accueille, il s'appelait Olivier Giblin. Et nous dit, des Parisiens comme vous, j'en ai tous les jours plein, mais puisque vous êtes là, je vais vous faire montrer quelque chose. Donc il a appelé son épouse, qui nous a amené là-bas, et puis Jean-Daniel a regardé pendant 30 secondes, et puis il a dit, j'achète. Voilà. Donc on a acheté, on a fait restaurer par un monsieur Garcia, qui était maçon à Galician. Et puis, une fois que c'était restauré, on a transféré notre petite entreprise, le Centre Formation Communication, là-bas. Et on s'est installé.
C'était donc une entreprise qui avait été créée à Paris, alors?
C'est une entreprise que j'avais créée à Paris parce que Jean-Daniel, parce qu'on allait déménager dans le Gard. Donc, comme il était associé avec un copain qui était journaliste et qui faisait déjà l'entraînement à la prise de parole en public et la formation à la prise de parole en public pour l'EDF, GDF et d'autres clients, on s'est installé là-bas. Et puis, moi, je dis, je vais créer l'entreprise et puis on va continuer le boulot. Et ça tombait bien puisque c'était en 81. Où sont arrivées les obligations pour les entreprises de verser 1% de la masse salariale pour la formation des employés.
Alors, qu'est-ce que tu dispensais comme cours.
Alors, à l'origine, nous faisions que la prise de parole en public. Et on a commencé avec ça parce que le notaire que nous avons dû la maison et avec qui on était devenus amis nous a dit « Ah ben ça, c'est très bien. Le notariat a bien besoin de formation à la prise de parole en public. » Et on va commencer. Il était président de Jeune Notariat. Donc il nous a dit, ben voilà, on va commencer avec Jeune Notariat et puis après, on va vous introduire auprès des conseils régionaux et conseils départementaux. Donc, allons-y. Et puis, on est allé les voir, ils ont dit, oui, ça nous intéresse. Bon, quand est-ce qu'on commence? Combien de temps ça dure? 5 jours. Et on a commencé. C'était bien parce que...
Ah, tu formais que des notaires.
Alors, Régine, oui, c'était le premier client.
D'accord.
C'était un bon client, il payait bien, ça marchait très bien. Et puis, il ne discutait pas les prix. Et puis, comme Jean-Daniel était bon pédagogue, il suffisait des 2 premières formations pour que sa réputation soit faite. Et bah, tous les conseils régionaux appelaient en disant « Nous aussi, on veut, ça nous intéresse ». Donc, ça roulait bien. Et puis, là-dessus, son copain Rémi, il s'appelait, je sais pas, Jean-Rémi ou quelque chose comme ça, avait dit, bon, moi j'arrête parce que je prends ma retraite. Donc, ils ont fermé l'entreprise qu'ils avaient créée à Paris. Et j'ai pu récupérer tous les clients qu'ils avaient à Paris.
D'accord.
Donc, EDF, GDF, le CNRS, l'IGREF, l'IRAM.
Et ils faisaient la même formation ?
Ouais.
Prise de parole en public.
Prise de parole en public.
D'accord. Ouais. Alors, ce qui fait qu'en fin de compte, tu avais des clients à Paris et tu avais des clients.
J'ai eu des clients.
Dans le midi, partout.
Partout.
D'accord.
Voilà.
Ah, ça, c'est bien. Ça.
Ouais. C'était des semaines de formation d'une semaine, du lundi au vendredi. Ils logeaient sur place, les frais étaient payés. Et ils y allaient. On avait investi dans une caméra Sony, un téléviseur, un magnétoscope et un micro. Et donc, ils voyageaient avec son matériel. Et puis, ils se déplaçaient. Et puis...
Alors, quel profil de client vous aviez dans ces grandes entreprises ?
Les notaires.
Oui, d'accord. Les notaires.
Les cadres sup.
Les cadres sup,
ouais.
Voilà, qui apprenaient à parler.
Ouais.
C'était le début de la communication des entreprises.
Tout à fait. Et puis, il y avait le début des cercles de qualité aussi, où il fallait qu'ils prennent la parole et que, un polytechnicien, il n'a jamais appris à parler.
Non.
Donc, ils étaient assez paniqués s'ils devaient parler devant un groupe, etc. Et à Paris, on était au début les seuls. Et après, il y a un deuxième gars qui s'est installé, mais il n'avait pas la personnalité de Jean-Daniel non plus. Donc, Jean-Daniel, il mettait les pieds une fois dans une entreprise et ça fonctionnait.
D'accord. Alors donc, ça...
Et son cours était bien rodé, c'était toujours le même. À la fin, j'aurais pu le faire à sa place, sans son talent, mais à sa place. Et ça marchait bien.
D'accord.
Voilà.
Alors, parle-moi de l'Afrique, parce que je crois souvenir que Jean-Daniel était très intéressé par les masques africains. Oui. Vous avez été en Afrique tous les deux. Dispenser une formation.
Oui, une formation de 3 semaines.
Voilà. Alors, parle-moi de ça.
Quand Jean-Daniel, il avait une formation de comédien et il était devenu assistant metteur en scène à Paris de Barrault, de Wilson, de Tassoncourt, etc., etc. Et puis en 67, son épouse avec qui il était marié, de laquelle ils avaient une petite fille qui s'appelle Clotilde, elle est répartie chez ses parents au Liban pour l'été. Et lorsqu'elle est revenue au mois de septembre, elle a dit à Jean-Daniel, voilà, je veux divorcer. Bon. Et...
Sa femme ?
Oui.
D'accord.
Et lui, ça lui a créé un tel choc, qu'il a commencé à picoler du matin au soir. Et donc, il a perdu tous ses contacts au théâtre et son boulot au théâtre parce qu'il était beurré pendant 6 mois toute la journée.
Donc, ça, c'était avant que vous vous installiez à Galice.
Ça, c'était avant que je le connaisse.
Ah, même avant que tu le connaisses, d'accord.
Et donc, ça a duré une année, mais du coup, le théâtre s'était terminé. Et il a eu un copain qui lui a dit, viens avec moi, je fais de la formation pour les journalistes africaines francophones. Et il y avait à ce moment-là un organisme qui s'appelait l'OCORA, l'Office de coopération franco-africaine, et il formait les journalistes au métier de journaliste, et donc Jean Daniel a commencé à former les animateurs et journalistes radio. Et il a commencé son boulot comme ça. Donc là, il était embauché, il avait du boulot à plein temps et il avait de quoi vivre. Voilà, donc le changement de métier a commencé comme ça et nous, on s'est connus en 70 au restaurant Les Assassins à Saint-Germain, où Jean Daniel, pratiquement, il allait dîner tous les soirs. Depuis, déjà pendant la guerre, il allait dîner là-bas. Et ils avaient, en bas, c'était un petit resto, bistrot, machin. Et ils avaient deux gars qui venaient tous les soirs faire l'animation. L'un, c'était un espèce de peintre qui dessinait et qui amusait les gens du restaurant avec ses peintures en racontant des histoires. Et puis, il y en avait un autre qui racontait des blagues. Après, il y avait Maurice Dulac qui venait chanter. Et Jean Daniel, comme il dînait là tous les soirs, il amusait la galerie autant que les autres qui étaient là pour les amuser. Et on s'est connus, comment est-ce qu'on s'est connus? Je ne sais même plus, mince. Mais le premier soir, on a été dîner là-bas. Et puis, on lui a dit, ah oui, c'est ta nouvelle copine. Oui. Hein? Bon, voilà. Et on a commencé notre vie commune, pratiquement, très rapidement, comme ça, au 72 boulevard Pasteur, derrière la gare Montparnasse.
D'accord.
Voilà.
Alors, revenons maintenant à Galicia.
On a installé le CFC là-bas, le Centre Formation Communication. Jean Daniel faisait le tour de la France et moi, je faisais une partie du tour de la France pour aller chercher les clients, pour leur faire signer le contrat pour l'année, etc. Et puis, je m'occupais donc de la compta, de tout ce que Jean Daniel ne faisait pas. Voilà, et puis on a élargi un peu puisqu'il y avait les sacs de qualité, donc j'ai trouvé un deuxième animateur. Et puis après, j'avais un copain qui travaillait chez Lectica, avec François Richaudot, qui avait mis en place la méthode de lecture rapide en France, qui m'a dit, viens, on va te former à la lecture rapide et puis tu vas faire des formations à la lecture rapide. Donc, je me suis mis à faire des formations sur la lecture rapide.
Ça se passait bien ?
Ah oui, très bien. Oui.
Avec quel profil de client ?
Essentiellement cadre supérieur, toujours.
D'accord.
C'était notre clientèle. Hein.
D'accord.
Et non, c'était rigolo. Je me souviens juste d'un stage où c'était des chercheurs CNRS et puis... il était africain, et puis dès le début du stage, premier exercice, il me dit « Madame, je n'aime pas lire ». Bon, je lui dis « écoute, tu vas essayer, hein, c'est pas moi qui t'ai forcé à venir hein, ». Alors, pendant 2 jours, toute la journée, mais moi je n'aime pas lire. Alors, je lui ai dit, écoute, choisis, tu peux t'en aller si ça te plaît pas, si tu n'aimes pas lire, pourquoi tu t'es inscrit ? Ah, parce que je voulais voir ce que c'est. Et puis, je lui dis, bah, t'es libre, hein, tu veux partir, tu pars. Mais il est resté. Et puis à la fin, il m'a dit, bah, je vous remercie beaucoup parce que maintenant j'aime lire. Je vais m'y mettre.
C'est la plus belle récompense qu'on peut te faire, hein?
Voilà, donc on a fait ça. Je fais, bah, après, j'en allais partir à la retraite au bout de.
Parle-moi des masques africains.
Alors, les masques africains. Donc, comme il avait fréquenté les Africains, il s'était intéressé à leur culture. Et puis, bon, à Paris, le week-end, bah, le week-end, on passait souvent nos samedis et dimanches à nous balader bah, chez les antiquaires et aussi chez les antiquaires qui vendaient de l'art africain. Donc et puis, il y a eu une très belle exposition au Grand Palais à Paris sur l'art africain. Et la culture africaine. Et puis là-dessus, Jean-Daniel, il a dit, bah, j'en veux un. Donc on a commencé à regarder chez les antiquaires. Et puis très rapidement, on est devenu aussi la cible des Africains qui vendaient des masques dans la rue. Et puis on a rencontré un copain qui lui était déjà spécialiste des masques africains, et puis petit à petit, bon, ben, il a monté sa collection de masques. Et puis on passait nos week-ends
À chiner des
à
masques.
chiner des masques, à regarder, à parler avec les Africains, et puis on était bons clients, hein. On était bons clients et puis nous aimait bien parce que bon, on les accueillait gentiment à la maison, on leur offrait un coup à boire et puis on négociait pendant des heures le bon prix du
À
masque
l'africaine.
à l'africaine. Oui.
Voilà.
Donc c'était devenu son passe-temps
D'accord.
et sa passion.
D'accord.
Voilà.
Ça vous a pas valu des déboires, cette affaire-là?
Bon, pas vraiment.
Pas
Pas
vraiment.
vraiment, non,
Bon.
non, non. À cette époque-là, c'était encore abordable. Et
D'accord.
puis on apprenait aussi au fur et à mesure. Donc il y a des choses qu'il a revendues. Et puis il fallait pas croire tout ce que les Africains nous racontaient non plus, hein, parce qu'il y en avait qui. Il travaillait avec les livres d'art
Pour en
au bled et
fabriquer.
il en fabriquait, mais ça se voyait quand même. Ça se voyait. Voilà. Donc.
Ok. Alors, donc, voilà, Jean-Daniel arrive bientôt à la retraite.
Oui.
C'est en quelle année, ça? Tu te
Bonne
souviens?
question. 2002, quelque chose comme ça. 2002,
Non, c'était avant.
avant. Je ne sais plus. Je sais pas, 90, 95, 96, quelque
D'accord.
chose comme
Ok.
ça, ouais.
Alors, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là?
Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est installé à plein temps à Galicia.
Ouais.
Il a commencé à peindre. Il faisait encore un peu de photos, pas beaucoup. Avant, son passe-temps, c'était de photographier des nanas à poil.
Bon.
Et il en avait qui était pas mal du tout. Et puis là, il faisait encore un peu de photos, mais pas trop. Et puis, bon. On allait au village, on avait pas mal de copains. Tous nos copains parisiens passaient quelques jours avec chez nous dans le midi. Donc ça leur plaisait bien.
Mais toi aussi, tu étais à la retraite?
Ah non?
Alors, comment tu faisais? Qu'est-ce que tu faisais?
Qu'est-ce que je faisais à l'époque? J'ai toujours bossé. Je m'occupais encore du CFC tant que. Il arrêtait petit à petit, mais mes deux autres animateurs, ils continuaient un peu à bosser. Et puis, tout s'est arrêté quand je suis partie à l'hôpital pour me faire opérer et rester à l'hôpital.
D'accord.
Et en
Alors,
revenant de ça,
attends. Tu étais à l'hôpital. À quel hôpital as-tu été?
J'étais à l'hôpital de la Croix-Rouge à Paris.
Ah, tu étais retournée à Paris?
Oui, parce que j'avais mon chirurgien à Paris.
D'accord.
Et que bah, il n'y a que lui que je faisais confiance.
Et tu faisais confiance aussi à un chirurgien de Toulouse?
Oui, après.
Après.
Mais attends, ça s'embrouille un peu.
Oui, c'est ce qui me semble.
Bah,
parce que tes premières opérations de la hanche, tu les as faites à Paris.
Oui.
Après, donc, tu quittes Paris, tu vas t'installer dans le Midi. Et puis, dans le Midi, bon, bah, tu...
En fait, je suis arrivée à Toulouse parce que bah, je vais être en Allemagne voir ma mère et ma sœur. Et puis, j'avais un copain, bah, j'avais mon copain Philippe qui habitait à Toulouse à ce moment-là, qui faisait les bouchons. Ah oui, parce que...
C'est après, c'est venu après les bouchons.
Bah, c'est là où je suis rentrée à l'hôpital aussi.
D'accord.
Et c'est comme ça que je connais Bourse.
Voilà. Donc, les bouchons, ça c'est... voilà, que Jean-Daniel arrive à la retraite, tu te cherches
nous,
des petites...
Bah, nous, on ne s'entendait plus très bien, donc moi, je déménageais à Nîmes, je me suis installée à Nîmes, j'ai trouvé mon appart, et puis je faisais encore mes formations de lecture dans mon appartement.
Ah, d'accord.
Et puis, bon, bah, j'étais rue du Cité Foulque à côté des arènes. J'avais une grande pièce, ça s'y prêtait bien pour la formation, et puis deux chambres. Donc, j'avais pris ça en tant que bureau.
Ah, d'accord.
Et puis après, bon, ben, je me suis mis un lit dans une des chambres. Dans l'autre chambre, c'était le bureau de la secrétaire. Et dans la grande pièce, c'était le salon et
la salle de séminaire.
La salle de séminaire. Donc,
d'accord.
Voilà, donc je vivais comme ça. Et puis, ben, je fais ça jusqu'à un certain temps.
D'accord.
Là, j'ai un trou.
Ouais. Et puis, tu as les hanches qui ont commencé à te...
Ah ben, les hanches, ils ont commencé depuis fort longtemps.
Oui, mais hein, ça a repris là-bas.
Bah, j'avais mal. J'avais mal, et puis... alors, Philippe... Ah oui, après, j'ai... Non, après, j'ai... En fait, quand j'ai habité à Nîmes, j'ai rencontré Meyer...
Oui.
Et Meyer, donc, m'avait chargé de...
Alors, qui était Meyer?
Meyer, c'était le copain d'un brocanteur antiquaire allemand que j'avais connu via les antiquités, qui venait faire ses achats en France pour les revendre à côté de Munich, en Allemagne. Et puis un jour, il est arrivé avec son copain connaissance Meyer et qui c'est Eric. Et puis Eric, il avait passé un peu de vacances à Colias chez
Colias, qui est au nord de Nîmes,
ouais. Où l'autre avait racheté la maison de Trintignant.
Ouais.
Et Meyer, ça lui a bien plu, et puis j'avais fait sa connaissance, et il m'a dit, bah, vous qui habitez là, moi je veux bien acheter quelque chose dans le coin, et bah, je vais vous charger de le trouver.
Ah, d'accord, voilà. Ça fait agence immobilière.
Voilà, donc bon, bah, j'ai cherché, et puis j'ai cherché à Colias, et effectivement j'ai trouvé.
D'accord.
Et donc, il a acheté. Et puis, mais il fallait restaurer. Donc, il m'a dit, on va faire tout ça ensemble. Et tu vas t'en occuper pour suivre les travaux. Pendant que je suis en Allemagne, donc déjà, alors il faut un maçon, un carreleur, un machin, un truc. Bon, on commence par les trouver. Et puis, bon, bah, on a trouvé, et puis il a restauré. Et que, il y avait deux parties de sa maison. Donc, il y avait une partie où il y avait, qui était louée à un jeune couple, et puis sa maison à lui, et puis les chambres au-dessus, en dessous. Et puis ce qui avait été un petit magasin de vente qui donnait sur la rue, et puis il a dit, ben voilà, on va pouvoir faire chambre d'hôte, et puis tu vas t'en occuper aussi. Et puis bon, ça m'allait bien. Et puis après, il m'a dit, bon ben, tu vas venir habiter là, comme ça, t'as pas de loyer à payer, t'es sur place, et bon, ok. Moi,
mais tu continues à travailler indépendamment de ça ?
Non, j'avais mon chômage à ce moment-là.
J'avais ton chômage.
Oui, j'avais mon chômage.
Et... T'as été à l'hôpital à ce moment-là aussi.
J'étais à l'hôpital avant et après. Bon. Et puis, mais là, j'étais. Ça allait à peu près. C'était pas trop grave. Enfin, c'était supportable. Et puis, donc, je me suis installée à Galician.
Non, à Collias.
À Collias. Et puis, à Collias, bon, bah, j'étais toute seule. Donc, je commençais à regarder les annonces, etc. Et puis, je me suis trouvée mon copain, Philippe, qui habitait à ce moment-là à Toulouse et qui s'occupait d'une bouchonnerie.
C'était Toulouse ou Perpignan ?
Non, Toulouse. Mais la bouchonnerie était dans les PO.
D'accord.
Et au Portugal.
D'accord.
Donc, j'allais chez lui et puis bah, il me parlait des bouchons, etc. Et c'est là où je suis tombée malade. J'étais partie...
Alors, tu as vendu du bouchon avant de tomber malade?
Non. Après. J'ai commencé, mais c'était pas tout à fait au point.
D'accord.
Et mais j'avais démarché des entreprises depuis 6-8 mois. Et donc ça me plaisait bien. Donc je m'étais dit, bon, bah, je vais faire une formation dans le vin. Mais à ce moment-là, je suis tombée malade et je suis partie à l'hôpital à Toulouse, puisque en revenant d'Allemagne, j'ai atterri chez lui. Et puis, il m'a dit, mais qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que tu fais? Tu veux que je te ramène à Nîmes ou tu veux que je te ramène à l'hôpital ici? Alors, comme il n'y avait personne à Nîmes, je lui ai dit, bah, ramène-moi à l'hôpital ici. Hein, c'est... Donc, il m'a amené à l'hôpital là et puis bah, j'y suis restée 3 ans.
3 ans, d'accord. Ouais. C'est là où tu as connu Bourse,
ouais.
Le chirurgien.
Ouais.
D'accord.
J'ai d'abord connu le rhumato qui m'a dit, mais vous êtes dans un drôle d'état. Et puis après, une fois, et puis ils ont regardé, et puis oui, j'ai vu Bourse, et il a dit, mais on ne peut pas opérer quelqu'un qui...
qui
était dans cet état-là et qui a des staphylocoques dans l'os de la hanche. Faut d'abord soigner ça. Donc,
Et qu'est-ce que tu retires comme expérience de ces 3 années ? 3 années non-stop à l'hôpital ou...
ouais.
Qu'est-ce que tu retires de ça ?
J'ai d'abord été à l'hôpital à Toulouse et après j'étais en centre de rééducation à côté de Toulouse. Qu'est-ce que je retire ? La première année, je ne retirais rien puisque j'étais complètement dans les vapes. J'arrivais pas à me lever, j'avais mal et bon après ça allait un peu mieux quoi. Mais qu'est-ce que je retire? Pas de chance. Mais c'était ça aurait pu être pire finalement. Bon, en centre de rééducation, c'était sympa. Ils nous traitaient bien. J'avais une chambre pour moi, j'avais mon repas, le ménage était fait, etc. Et puis, il y avait d'autres, il y avait des copains, des copines. Bon, ça aurait pu être pire.
Bon. Mais tu n'as pas d'expérience particulière?
Non. Non, c'était plutôt sympa. Hein,
d'accord. Bon, alors, donc, cet épisode de 3 années quand même, terminé, qu'est-ce qui se passe? Alors, tu reprends les bouchons?
Oui.
Alors, raconte-nous l'épisode des bouchons.
Je reprends les bouchons, ou j'ai pris les bouchons, je ne connaissais pas.
Alors, c'était quoi, les bouchons?
Les bouchons, Philippe, il travaillait dans une usine, il était directeur d'une usine au Portugal, une bouchonnerie. Un grand truc. Et puis, il prenait sa retraite, donc il voulait rentrer en France. Et puis, comme il avait un peu de sous, il a racheté des parts dans une usine française.
Dans une bouchonnerie?
Usine à Serré, dans les PO.
D'accord.
Et donc, il faisait du bouchon haut de gamme. D'accord. Et puis, moi, sortant de l'hôpital... Il trouvait que ça me ferait du bien d'aller voir du monde. Et puis, il m'a dit, toi qui es la tchatche, tu vas démarcher, tu vas mettre en place le service commercial. Et,
d'accord, alors tu démarchais qui?
Je regardais, tiens, où est-ce qu'on vend du vin dans le Languedoc?
Chez les vignerons.
Chez les vignerons, oui. D'accord. Ouais. Je frappais à leur porte, hein, je regardais qui il y avait, je regardais les adresses au syndicat, et puis j'y allais. Hein.
Donc, en même temps que tu apprenais la vente des bouchons, tu apprenais le vin aussi.
Ouais. Oui,
parce que... Tu dégustais, tu...
Parce que quand j'arrivais, il se disait, tiens, c'est qui cette bonne femme qui vient nous acheter du vin? Donc, j'avais un gentil accueil, et puis il me demandait si je voulais goûter. Alors, je disais, oui, je veux bien goûter. Et puis, donc, il sortait la bouteille, je disais, et puis vous bouchez avec quoi? C'est qui? Montrez-moi votre bouchon. Donc, ça les étonnait un peu, et puis je regardais, je dis, parce que moi aussi, je vends des bouchons. « Ah bon, ils sont comment vos bouchons ?» Je dis « Ah, ils sont beaux, nos bouchons. Hein, » Et puis, j'ai sorti mes échantillons. Et puis, ils me disaient « on va faire un essai. »
Ouais, tu as commencé à faire des petites ventes, alors.
Oui, des petites ventes. Et puis, ils voyaient qu'on était sérieux. Et que, si jamais il y avait un problème, j'étais là tout de suite pour voir le problème. Et que, je leur cassais pas les pieds comme la plupart des représentants qui étaient là. Et puis, puis en même temps, je m'intéressais à leur vin. Je leur achetais un peu de vin.
D'accord. Oui, c'est bien parce que tu apprenais le métier et puis tu découvrais le vin.
Oui. Hein, ça... Mais ils voyaient aussi que je m'intéressais à ce qu'ils faisaient eux.
D'accord.
Donc, Ça les intéressait, et puis ils me parlaient de leurs problèmes avec de bouchons. Et alors je leur disais, oui, mais attendez, c'est pas forcément le bouchon qui est mauvais, ça peut être aussi les qualités d'embouteillage et l'hygiène dans la cave, etc. Et donc, et puis je me disais, c'est intéressant. Donc, comme j'étais salariée, j'ai demandé une formation.
D'accord.
À l'université de vin à Suze-la-Rousse.
Ah ouais, mais ça vient après. Parce qu'il s'est passé quelque chose d'autre avant.
Je ne me souviens pas.
Tu ne te souviens pas? Non. On a simplement, toi et moi, fait connaissance.
Je n'avais pas déjà fait l'université.
Non. Ta formation à Suze-la-Rousse, eh bien...
C'était pendant?
On avait fait connaissance depuis un an ou deux. On devait se retrouver. Bon, nous, on s'est connus en 2002, en octobre 2002.
Ouais, et ma formation, c'est 2003.
Ta formation, c'est 2003 ou 2004?
2003, il me semble.
Bon. Donc, on s'est connus. Toi, tu étais à Collias. Moi, j'habitais à Aix-en-Provence. Mmh. Et puis, nos cœurs se sont rejoints. Et je t'ai débauché de Collias pour que tu viennes t'installer à Aix-en-Provence. Là, tu nous as trouvé un joli petit nid, un joli petit appartement.
Oui, exact.
C'était sympa, notre appart. Et puis, on s'est installé, Ikea et compagnie, pendant tous les week-ends, Ikea, Ikea. Bon, et puis, cela fait, à un moment donné, tu me dis, j'aimerais bien faire ma formation. Mmh. Alors, parle-nous de cette formation.
Bah, c'était une formation d'une année sur Vitivini, assez complète à l'université du vin à Suze-la-Rousse, mmh. une petite université qui avait été créée par un vigneron du Vaucluse qui s'appelait, je ne me souviens plus, mais que j'avais connu et qui trouvait scandaleux qu'il n'y ait pas une formation propre au métier du vin.
Dans la vallée oui. du Rhône.
Et que les vignerons étaient beaucoup trop dépendants des œnologues et qu'il fallait qu'ils apprennent aussi le métier et que...
Où est-ce que c'est Suze-la-Rousse, où est-ce que c'est,
Ouais, à peu près,
Vaison-la-Romaine, par là-bas.
C'est dans la Drôme.
Dans la Drôme,
ouais. Ouais. C'est entre les deux. Voilà. C'est plus près d'Avignon.
D'accord.
Si on descend un peu.
D'accord.
Que c'était joli, c'était dans un château.
Ouais.
Et puis, donc, cette université avait été créée pour former au métier du vin, mais aussi sommelier. Et
toi, tu avais pris une orientation commerciale,
ouais,
si
ouais,
ma mémoire
ouais,
est bonne. Mais ça empêche que tu faisais des trucs sympas.
Bah, il fallait qu'on apprenne bien le vin pour pouvoir le comprendre et le vendre. C'est ça qui était intéressant. Ce n'était pas uniquement du commerce.
Voilà.
Donc, on avait des cours de dégustation, on avait des cours comment on fabrique le vin, on avait des cours aussi comment le servir, quelques-uns, et aussi le commercial.
D'accord. Alors, c'est intéressant, cette période-là, parce que pour moi, c'est des bons souvenirs, le fait qu'on
se connaisse. Pour moi aussi.
Ouais. Le fait qu'on se connaisse et qu'on apprenne à s'aimer, qu'on apprenne à bien se comprendre et à partager. Une des premières choses, outre l'amour que nous avons partagé, eh bien, c'est le vin. Avec une dégustation journalière, on buvait pas mal à cette époque-là, hein, tous les soirs, une dégustation d'une nouvelle bouteille que tu nous ramenais de tes dégustations dans les vignobles. Ça, c'était bien, ça, c'était bien. Il a fallu qu'on ralentisse un peu après parce qu'on chargeait un peu, mais c'était bien, c'était bien. Voilà, alors là, donc, après cette formation, est-ce que tu te souviens de ce qui s'est passé?
Oui, bah, d'une part, je me dis, bah, je vais vendre un peu de vin.
Oui, voilà.
Donc, je me suis choisi une petite gamme. Et puis à Aix, où on habitait, il y avait le petit marché juste en face.
Oui, mais alors tu t'es choisi une gamme de rosé d'Aix-en-Provence.
Bah, pas que, il y avait le vin de monsieur Hugues, le domaine de Hugues, il y avait deux ou trois, donc je me suis dit...
Oui, il y avait les vins de...
Il y avait une petite gamme, c'est
voilà.
Pas trop grand pour commencer. Et puis, je m'installais avec ma table, mon parasol.
Tu avais acheté un grand parasol ouais. Et que tu avais du mal à transporter parce que c'était lourd, c'est grand. Mais tu avais que la rue à traverser pour t'installer.
Oui.
Quoi.
Oui.
Bon, notre garage était devenu une cave à vin.
Tout à fait.
On ne mettait pas la voiture, on mettait des bouteilles dans le garage. Voilà, c'était une bonne période, ça, c'était sympa.
Oui, c'était très sympa.
Ouais. T'as pas beaucoup vendu, mais tu passais du bon temps.
Oui, non, et puis après il fallait aller démarcher, mais après j'ai rencontré aussi les femmes vigneronnes.
Parle-nous de ça, ça c'est intéressant.
Donc, ils avaient le président du syndicat des vins des Côtes-du-Rhône. Avait dit que il fallait faire quelque chose pour les vigneronnes.
Les femmes,
oui. Les femmes vigneronnes. Et que, il avait chargé Anne Hugues de voir ce qu'on pouvait faire. Et puis Anne, elle a dit, faut commencer, il faut former les femmes. C'est elles qui achètent la plupart des vins.
Oui.
Donc, on va leur faire déguster nos vins. On va
les
leur
initier
parler,
à la dégustation.
Ouais. Et donc, ils cherchent. Je me suis présentée en disant que je n'étais pas vigneronne, mais que je voulais bien participer à ce groupe pour faire déguster les femmes. Et que j'avais fait l'université du vin, donc j'avais un tout petit peu de compétences. Et puis, j'étais acceptée tout de suite dans le petit groupe et on a décidé de faire les dégustations.
Alors, comment ça se passait, les dégustations ?
La première, on s'est totalement planté parce qu'on l'avait programmé à 9h du matin.
Pour les femmes ? Oui, pour faire déguster des femmes.
Et à part une ou deux, on n'a eu personne. C'était des dégustations gratuites.
Oui, mais à 9h du matin, il n'y a pas grand monde qui boit, et les femmes encore moins.
Voilà, on aurait pu demander au clodo. Hein, c'est...
Ouais.
Et donc, on s'est dit, ça ne va pas. Là, on s'est gouré et on va essayer l'horaire de midi où elles ont pause déjeuner, et éventuellement elles font leurs courses, etc. Et puis là, on l'a fait savoir, on a fait des communiqués de presse, on a distribué des petites affiches, on a écrit à toutes celles à qui on pouvait écrire, et très rapidement, on a fait quand même salle pleine.
Oui, et puis vous faisiez des tas de petites manifestations.
Oui, après...
Vous avez fait venir un photographe qui photographiait les femmes.
Tout à fait.
Et de belle façon, quoi, parce que c'était bien fait. Tu avais fait une dégustation avec des verres de baccarat.
Oui.
Tu peux raconter les verres de baccarat ?
Un jour, c'est Dany qui avait parlé des verres de baccarat. Et puis, alors, je lui ai dit, écoute, on pourrait essayer, non, de déguster dans des verres de baccarat. Ouais, je dis, on peut peut-être leur demander s'ils peuvent nous prêter des verres. Et puis, avec Dany, on avait pris contact avec Baccarat, qui a dit, sans problème, on va vous envoyer les verres. Et puis, un peu de temps après est arrivé... Les verres sont arrivés, chaque verre dans une boîte individuelle, ça coûtait déjà quand même.
Ouais, on faisait attention à ne pas casser.
Ah oui, et donc on s'est dit, on va se faire une dégustation entre nous avec le verre de baccarat et le verre Inao. Donc le verre Inao, c'est le verre qui sert pour la dégustation officielle des vins.
D'accord.
Et voir, et effectivement... Il y a quand même vin, il y a quand même une différence.
Voilà. C'est là où tu as découvert que, outre le prestige de Baccarat, tu as découvert que la qualité d'un verre rendait le vin meilleur ou moins bon. Et on a eu l'occasion, mais on y reviendra, d'approfondir le sujet un peu plus tard.
Ouais.
Très bien. Ça, c'est bien, et puis...
Et puis, finalement, après la dégustation, il y en a quelques-unes des vigneronnes qui ont dit « Ah oui, mais moi, je vais en acheter quelques-uns pour mes meilleurs clients. » Donc, Baccarat n'est pas parti tout à fait perdant non plus.
D'accord.
Et effectivement, on a lavé les verres, on les a réemballés, et puis là, on marchait quand même sur la pointe des pieds.
On a fait une prière pour que rien ne casse.
Oui.
Très bien. Pour moi, qu'est-ce qui se passait à ce moment-là ?
T'as meilleure mémoire que moi. Ouais.
Ah, non, je me souvenais parce que c'est quand même des affaires banales. C'est pour ça que je tiens à ce que ça soit mémorisé dans un podcast. Parce que c'est
mais
bien.
C'était une jolie époque. C'était intéressant et effectivement, je regrette un peu. C'est quelque chose, j'aurais connu ça plus tôt, je me serais investie plus tôt.
Mais ça, c'est sûr.
Mais c'était pas le moment.
On ne peut pas être avant d'avoir été.
Non.
Mais ça t'a permis de connaître un milieu sympa.
Oui.
Ça t'a permis de me le faire connaître à moi.
Oui.
Et moi, j'étais content de découvrir ça. Pour ma part, qu'est-ce qui s'est passé dans ces années-là, 2002-2003 ? 2003, je suis passé sur le billard à plusieurs reprises pour des problèmes de prostate, d'infection, de trucs. On allait chercher les antibiotiques dans les pharmacies des hôpitaux. C'était tout un bin, cela. Et j'ai passé quand même 6 à 8 mois...
Un sale moment.
Difficile. Ouais. Mais, on se connaissait depuis pas très très longtemps et tu m'as bien accompagné, tu étais là. La clinique n'était pas très loin de notre
maison,
appartement.
Ouais.
Et puis tu passais me voir tous les jours, tous les deux jours, et puis c'était bien. Et puis, bon, ben voilà, grâce à toi, je m'en suis bien sorti. Mais, à cette époque-là, j'étais encore chez Big Mat
oui.
Et je commençais à préparer mon licenciement parce que j'avais déjà été un peu sur la sellette dans un épisode que j'ai déjà raconté dans un précédent podcast. Et puis là, avec l'arrivée d'un cerbère en jupon, Edwige, qui avait pour mission de me virer, eh ben, on a passé 3 ans à négocier mon licenciement pour repartir avec 3 années de salaire.
C'était pas mal.
C'était pas mal, et puis ça nous a bien rendu service pour la
oui.
suite.
Ouais.
Et ça, on aura l'occasion de le revoir. Il y a quand même des choses formidables qu'on a faites, parce que le week-end, on allait voir tes viticulteurs, tes vignerons, on faisait des dégustations chez eux, et on a fait de belles dégustations. On a fait avec Dani, la championne des truffes, qui s'était fait introniser dans
la confrérie des truffes
de Carpentras ou de je ne sais où. Et ça, c'était sympa, on a fait un très beau repas truffes. C'était bien. Truffe entrée, truffe plat de résistance, truffe, jusqu'au dessert. Et puis... Ah oui, j'amenais mes copains de Big Mat, et notamment Stéphane Gesnel, qui nous a accompagnés dans 2 ou 3 dégustations, toujours pareil dans la vallée du Rhône. Et là, c'était sympa. On a fait une très belle dégustation à côté du péage. Tiens, raconte-nous l'histoire du péage de l'autoroute.
C'était dans le Gard, ça, non ? C'était pas dans le Gard ? Il me semble que oui. On est allé. C'était pas Uzès ? Non.
Non, c'était pas Uzès. C'était juste à côté de la sortie d'autoroute.
On va
comprendre pourquoi.
Avignon ?
À côté d'Avignon.
On est allé au. On s'était inscrit pour les challenges du vin, pour faire les dégustations. Mais là, c'était une dégustation. Si, on avait été. C'était la chambre. Bon.
Voilà.
On était allé pour les médailles.
D'accord.
Et effectivement, on a dégusté nos 8 ou 10 vins différents.
Oui, on a passé l'après-midi.
Même
et puis on a
plus,
dîné après.
Ouais.
Dans une belle établissement, c'était beau. J'ai gardé. C'est un beau petit château. Très bel endroit.
Voilà. Et puis en rentrant, tu travaillais encore.
À cette époque-là, je travaillais encore. Ouais.
On arrive au péage.
Ouais, j'étais au volant.
Ouais, t'étais au volant.
Les flics qui étaient au courant.
Les gendarmes.
Qu'il y avait une dégustation, me disent monsieur, voilà, est-ce que vous avez bu ?
Et tu avais dit ah oui ?
Oui, j'ai dit ah oui, on a bu. Bon, voilà, alcotest. Donc je souffle dans l'alcotest, mais tremblant de pétrage, parce que c'était le retrait de permis. Retrait de permis avec Edwige, c'était viré,
manu militaire.
Et là-dessus.
C'était bon.
Le gars, il me fait, c'est bon. Je lui fais, c'est bon comment ?
oui, oui.
Ça va. Ça va comment? Ben voilà, vous êtes en dessous de temps.
Oui.
Ah bon, alors ça, j'étais content. Et puis, Michaela, qui était assis à côté de moi, il me fait « moi aussi, je veux faire l'alcotest ». Bon, alors le gars, brave, il a fait le tour de la bagnole pour te faire des... pour te faire des déguster, pas déguster, tester. Et puis, en fin de compte, tout s'est bien passé. Hein, voilà. Donc, on était bien entraînés.
Oui, non, mais ça s'explique aussi que tu bois, enfin, tu dégustes, mais à la rigueur, comme c'est des petites quantités et que tu critiques et tu réfléchis et que tu as en plus t'as mangé entre les deux, tu consommes pas forcément, tu consommes même, je pense, moins de vin que quand tu prends un repas bien arrosé.
Alors, il y a ça. À la différence de toi qui, quand tu dégustais, tu recrachais. Ouais. Moi, j'ai jamais craché parce que je me suis dit que c'était du gâchis. Et voilà. Mais effectivement, on buvait plus longtemps, mais moins.
Ouais.
Hein?
Ouais.
D'accord. Voilà.
C'est le côté intéressant de déguster différents vins à plusieurs, quoi.
Tout à fait. On a eu un épisode sympa à ce moment-là, c'était le petit voyage d'un mois en convalescence après mes opérations de prostate à Miami.
Ah oui.
Offert par ta maman.
Oui, alors, à Key West.
Oui. Alors Mouti était à la manœuvre.
Oui.
Alors raconte-nous.
En fait, Hans, son compagnon, avait acheté des appartements à Key West. Et
il s'en était gardé un pour lui.
Oui, il s'en était gardé un pour lui, pour la famille. Et donc, on avait déjà été avec ma mère là-bas. Et puis, on trouvait ça très sympa. Et donc... ma mère aimait beaucoup aller là-bas aussi, et donc on a été, c'était la dernière fois, il me semble.
C'était la dernière fois, tout à fait. C'était pour ma convalescence.
Oui, c'était toujours au mois de janvier.
C'était janvier-février,
voilà.
Et c'était un bon moment, parce que d'abord je me suis bien reposé, le cadre était sympa, on avait un balcon qui avait une vue sur des sortes d'Everglades, des marais, mais jolis, avec plein d'oiseaux, plein de pélicans.
Ouais.
Il y avait les pélicans. Ta mère avait acheté un homard.
Ouais.
On avait mangé le homard. On avait cassé le verre de la table de salle à manger. Je ne sais plus en faisant quoi. Mais bon, là c'était... Là, on était mal parce que Hans nous avait bien dit qu'il fallait surtout ne rien abîmer.
Bah oui.
Bon, on a cassé ça. Mais bon, ça s'est bien passé, de mémoire. Et puis, c'était sympa, Key West, avec...
Toi, tu t'es pas baigné?
Bah, comme d'hab. Et puis,
il faisait pas très très chaud non plus.
La dernière fois que j'avais été en Floride, je m'étais baigné et puis j'avais baigné, bronzé, pelé, rebaigné, rebronzé. Trois fois en trois jours, j'avais pelé, etc. Bon, je vais pas garder un souvenir mémorable de ce truc-là. Plus les puces de mer, il y avait des puces de mer. C'était pas très agréable, mais toi, tu t'en foutais. Bon. Et puis, quoi d'autre? Ah oui, alors, moi, j'ai découvert les cigares.
Oui, ah oui, exact.
Découvert les cigares. Ben, il faut savoir qu'en Floride, la Floride est à quelques milles nautiques de Cuba, ouais. Et qu'il y a beaucoup de Cubains qui ont quitté Cuba avec Fidel pour venir s'installer aux États-Unis. Et là, ils ont créé des petites fabriques de cigares.
Tout à fait.
On est allé voir ça. Pour la soirée, je me payais mon barreau de chaise. Même, je regardais des photos il n'y a pas longtemps, ah ouais, avec ouais. mon barreau de chaise, fier comme tout. Et puis on allait voir le coucher de soleil.
Là, on a... Et l'apéro.
Et l'apéro au coucher de soleil. Et là, c'était bien parce que...
Johnny Walker is coming.
Yes, Johnny Walker is coming. Et ta mère était bien. Toi, tu étais bien, moi, j'étais bien. On était vraiment bien, et puis c'était calme, c'était tranquille, et c'est couché de soleil, et tu voyais des bateaux à voile qui passaient gentiment, sans faire de bruit, qui allaient vers le large. Non, c'était un bon...
Ouais, ça, c'était un bon moment.
Ça, c'était un bon moment.
Mais voilà. On avait été à Sulte aussi, non? On n'a pas été à Sulte avec toi?
Ben, si. Ah oui, si, on a été à Sulte.
Alors, toi, tu t'es pas baigné.
Ah ouais, alors ça, c'est encore autre chose. Sulte, ouais, bah tu, on peut en parler, Sulte, ouais, je l'avais même oublié, ça. Ouais. Eh ben, bah, Sulte, alors qu'est-ce que c'était, Sulte?
Bah, Sulte, c'est une petite île au nord de l'Allemagne, dans la mer Baltique,
la mer du Nord. Oui. C'est pas sur la Baltique.
Bon, c'est pareil.
Non, c'est pas pareil.
C'est une petite île où ma mère, elle aimait beaucoup y aller parce qu'enfant, elle allait déjà là-bas. Ma grand-mère, quand ma mère et sa sœur et son frère étaient petits, ma grand-mère avait décrété que les enfants devaient, en été, aller un mois à la montagne et un mois à la mer. Et donc, le grand-père sorte les sous pour pouvoir payer les vacances. Donc, et effectivement, ils avaient déjà été enfants à Sulte. Et ma mère avait gardé un très bon souvenir, donc, quand elle arrêtait de travailler, même un peu avant, on est retourné passer un mois de vacances à Sulte, et je l'ai accompagnée. Oui, à chaque fois. Je ne sais pas, ma soeur, elle avait autre chose à faire, mais je crois que... Non, ma soeur n'a jamais été avec elle à Sulte.
Voilà. Alors, pour aller à Sulte, eh bien, il y avait deux façons d'y aller. Soit avec le bac, tu mettais la voiture dans le bac, ou soit avec le train.
Oui.
Parce qu'il y avait une petite digue qui menait...
Parce que Hitler avait fait construire le chemin de fer jusqu'à Sulte, parce que il voulait faire
c'était le repos du guerrier.
Non, mais
les troupes, elles allaient se reposer en venant du front.
Oui, non, elles allaient aussi s'exercer là-bas. Si, il y avait, c'était pas uniquement pour se reposer.
Ah bon, je croyais que c'était pour se reposer.
Non. Mais Sulte avait gagné une bonne réputation puisque il y a une jolie cure à faire et que l'air est vigorifiant.
Ah, ça, c'est le moins qu'on en puisse
dire. Et l'eau aussi.
Voilà, l'eau aussi. Mais, la pluie, il pleut tout le temps.
Bon, c'est pas vrai.
Si, c'est vrai. On va en parler de la pluie. On va en parler. Non, ce que j'ai trouvé sympa dans Sulte, c'est le côté insulaire. Mais. C'était une île de milliardaires, quoi, ou de gros millionnaires, peu importe. Ouais. Et une très jolie île, avec des maisons avec les toits de chaume. Ça rappelait un peu les dessins animés de Walt Disney. Hein, les sept nains, ils allaient dans une maison avec les toits de chaume, c'était exactement la même chose.
Ils allaient à Sulte aussi.
Et Walt Disney avait été faire un tour à Sulte, et c'est ça qui lui avait inspiré. Il avait fait deux choses, Walt Disney. Il avait été à Sulte, et puis il avait été voir les châteaux de Louis II de Bavière.
Tout à fait.
Et l'un comme l'autre, ça l'a inspiré dans ses dessins animés. Voilà, c'était sympa. Ta mère, quand on y avait été ensemble... elle avait réservé une belle villa, magnifique, hein, la villa superbe, avec vidéoprojecteur dans la chambre, etc., etc. C'était parfait, quoi. Et moi, j'ai passé 30 jours non, 29 jours à pas sortir parce qu'il pleuvait tout le temps. Et il a fait beau que le dernier jour, juste avant de partir, quoi. Bon, alors, je fais un peu de neurasthénie là-dedans. Mais bon, ta mère, elle a un peu regretté. Hein.
Nous, on s'est baignés quand même.
Ouais. Ta mère a un peu regretté, d'autant que c'était l'année suivante notre périple avec elle à Key West, où là, j'avais été de bien meilleure compagnie. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire, chute, bah, oui, voilà,
c'est sympa. Un joli endroit.
C'est un bel endroit.
Ouais. Non, mais t'aurais dû t'inscrire à la cure.
Ça ouais, mais moi, les cures, c'est pas mon truc. Ouais, non, ça, c'est pas possible. Ça, c'est pas possible. Donc, voilà, voilà, voilà. Nous arrivons à la fin de notre podcast d'aujourd'hui. Là, ça fait... un petit peu moins d'une heure. Je voudrais qu'avant de nous quitter, tu nous parles des dégustations que tu as organisées pour tous nos amis. Tu te souviens que le vendredi soir, tu réservais des jolis endroits on y accueillait Corinne et toute sa bande. Et puis là, tu nous faisais déguster, puis tout le monde te regardait, tout le monde t'écoutait.
Bah, c'était
on apprenait le vin.
On apprenait le vin, et puis c'était sympa. Et puis à plusieurs, c'est plus intéressant à déguster que tout seul.
Et puis on faisait ça dans des beaux endroits, dans des belles maisons.
J'avais oublié ça.
Dans des belles maisons.
Ouais.
Voilà, donc ça c'était un bon moment.
On allait aussi dans les foires au vin et dans les salons.
Alors on allait dans les salons et le premier salon où nous avons été ensemble, c'était Slow Food.
Ouais.
Alors, Slow Food, ça demande quand même un grand développement. Ouais. Et je propose qu'on garde cela pour faire un autre chapitre. Voilà, Michaela, je te remercie de ce bon moment
Claude,
à ta compagnie.
De ta patience.
Bon, je pose patience. Moi, j'ai plaisir à discuter avec toi. Puis maintenant, ça va devenir encore plus amusant. Peut-être un petit peu plus.
À nous deux.
Peut-être un petit peu plus difficile en matière d'animation, mais on va faire des progrès et on va continuer la prochaine fois notre petite vie vers Slow Food, j'aurais été licencié de Big Mat.
La recherche de maison.
Et puis là, on va partir vers l'ouest.
Oui.
Où nous sommes aujourd'hui.
Oui.
Parce qu'aujourd'hui, nous sommes en Bretagne. À Auray, dans notre petit appartement. Voilà. Eh bien, je te remercie, Michaela.
Mais je t'en prie, Claude. Oui, non, mais il y a des tas de choses que j'oubliais, effectivement.